Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, le capitaine Cal Shadim, le frère d'armes de l'ex-commandant Beryn Karaman, a été convoqué au palais du vizir de la cité de Nippur pour y rencontrer le roi Azim qui y séjourne. Le roi a informé le capitaine que le prisonnier de guerre, le frère commandant Solomon, a été vendu au Ferné pour livrer un duel judiciaire. En effet, le peuple pirate voue une haine innommable au défunt père de Solomon, lui qui a incendié leur capitale 20 ans plus tôt. Cal Shadim sera du voyage vers les îles de fer, à la fois pour escorter Solomon, mais aussi pour veiller à la protection de son filleul, Kenan Karaman, qui sera mandaté comme scribe archiviste pour témoigner du duel pour les Mézoans. Pendant ce temps, Kenan profite de la vie nocturne de la ville et assiste à un combat clandestin mettant en vedette une guanac des tribus nordiques du monde de Babel. Kenan l'ignore encore, mais son destin sera lié à la jeune guerrière, Ygritte.
Chapitre 1. Quand le destin se joue de nous.
J'imagine que ça sera pas avec une foulée rapide que tu vas te rendre jusqu'à la villa de Beryn. Est-ce qu'il y a une presse de se rendre jusqu'à ton frère?
Il va se passer... Non, il n'y a pas de presse.
Okay.
En fait, il y a sûrement même quelques détours d'endroits qui vont... peut-être sous forme de recueil à la mémoire des moments vécus avec son grand ami Il y a deux ou trois endroits dans la ville où est-ce qu'il veut aller, qui passe pour visiter et qui se rappelle des bons moments. Comme si ces souvenirs, ces beaux souvenirs-là, étaient ce qui lui... Cal espère que ces beaux souvenirs-là vont lui donner du courage et la force de faire ce qu'il a à faire.
Après avoir ravivé quelques souvenirs et serpenté dans les ruelles clairsemées, pratiquement vide de gens, la nuit et les ombres envahissantes les ayant repoussés à l'intérieur de leur demeure, tu arrives près de la villa de Bérine. La porte avant donne d'abord sur le jardin intérieur, un endroit propice à la détente et l'étude, mais aussi le lieu où le jeune Kenan s'entraîne souvent avec son maître d'armes, et toi-même parfois. En passant sous les arches pour gagner l'intérieur, immédiatement une odeur te pique au nez. Une odeur que tu connais trop bien, Cal. Celle du fer liquide et rouge. L'odeur du sang. La caméra te filme de façon zénitale, te suivant du plafond. Que fais-tu?
Il y a des pas accélérés. Erin! Erin, c'est Cal, où es-tu?
Aucun serviteur. Pas de réponse.
Erin!
Bérine,
où es-tu?
Tu entres dans le salon. Le corps de Bérine est en position fœtale, sur le côté. Un étang rouge brillant autour de lui. Un énorme cercle de sang, presque parfait. Et la poignée dorée d'une dague richement décorée pointe de son ventre creux, ses mains accrochées à l'arme. Éloigné du cercle sanglant, tu vois un rouleau scellé sur le sol.
Cal va pousser le Bérine sur le côté, essaie de voir ses yeux, essaie de détecter frénétiquement s'il y a un souffle de vie.
Écoute, il y avait tellement de sang au sol qu'on a peut-être vu Cal d'abord s'approcher, glisser de côté. Il est couvert de sang. Un peu maladroitement, relève la tête de son frère et ami, son ex-commandant, à la recherche d'encore un peu de vie. Mais c'est un peu comme ce repas que tu as reçu dans les geôles il y a 4 ans, dans les sous-sols de la Cité dure. Tu te voiles un peu la face parce que le sang, cette quantité de sang, présume de rien de bon. C'est un corps déjà très blanc, les lèvres bleutées, que tu tiens mollement dans tes bras. Ton ami, ton frère, l'homme qui partage ta vie depuis 14 ans, qui t'a rentré dans sa famille, est mort.
Cal se relève rapidement et crie « Kenan! Kenan, es-tu là? Où es-tu? » Il y a quelqu'un dans cette maudite maison.
Rien.
Et d'un pas rapide, il fait le tour de la pièce pour s'assurer que personne n'est là.
Tu laisses tes traînées de sang un peu partout alors que tu inspectes les lieux. Rien. Personne.
Je porte mon attention. Lorsque Cal se rend compte que personne n'est dans l'endroit, son attention est attirée vers le petit...
Le rouleau?
Le rouleau scellé. Il s'en empare un peu du bout des doigts comme si c'était une chose dégoûtante et le met dans sa poche. Il regarde une dernière fois son frère et il sort de la maison bien décidé à aller retrouver Kenan, s'assurer que rien n'est arrivé à son filleul, parce que perdre un ami de cette façon-là, c'est déjà énorme. Il ne faudrait pas non plus perdre le fils de son ami et son filleul.
Alors on voit le capitaine sortir de la ville, ne croiser personne, alors qu'habituellement une
je te dirais, un minimum de 4 personnes œuvrent toujours autour de la villa, dans la villa des Karaman. Tu quittes. Où as-tu l'idée de trouver Kenan?
En fait, Kenan, je vais aller voir son... Cal va se diriger directement vers son précepteur. Cal l'a déjà rencontré à quelques occasions, le précepteur, le mentor, le maître de Kenan, et c'est vers là que je me dirige d'un pas assez précipité.
Très bien.
Probablement qu'on va voir Cal peut-être bousculer des gens sur le passage si...
Écoute, puis si tu les bouscules pas, ben ils se tassent d'emblée, parce que là, t'es à moitié recouvert de sang. Et tu sais que Kenan a 4 précepteurs, mais depuis les 2 dernières années, c'est surtout l'un d'entre eux qui est de plus en plus présent. C'est Zifa. Donc, j'imagine que c'est vers la demeure de Zifa.
Tout à fait.
Que tu diriges. Ça va te prendre environ une dizaine de minutes. Alors que tu arrives devant cette modeste maison. On est dans les quartiers pas les plus pauvres, mais pas non plus dans les quartiers moyens. Que fais-tu devant cette porte de bois?
J'y entre comme si... J'y entre comme si c'était chez moi d'un pas décidé.
En ouvrant la porte, ce que tu vois, c'est tu rentres directement dans une salle à manger et tu as cette table qui est recouverte de rouleaux, de parchemins. Et Zifa avec une lunette, un monocle de lecture qui est penché sur les parchemins et à la lueur d'une bougie est en train de les étudier. Et lorsque tu rouvres la porte en fracas... curieux réflexe, il a comme le réflexe de mettre les mains sur les parchemins, non pas pour les protéger du vent qui pourrait les faire dégringoler au sol, mais comme pour les cacher. Et lorsqu'il te voit, laisse tomber sa petite lunette de lecture, il y a comme un souffle qui se relâche, mais immédiatement, il se contracte à nouveau. Alors que tu avances à la lueur de cette chandelle, il reconnaît le sang sur ta tunique.
Allez,
Capitaine Shadim, que puis-je faire pour vous?
Kenan, allez.
Je ne l'ai pas vu, c'est le seigneur Karaman a annulé notre leçon de ce soir. Votre état, vous êtes blessé, capitaine?
Pas mon sang. Vous n'avez pas vu le petit, vous ne savez pas où il est?
Non, je suis son précepteur, pas sa nounou. Je dois le voir demain. Je peux lui faire un message, si vous voulez, demain soir.
Si vous le voyez, le plus tôt possible, je dois le voir. C'est une affaire d'une grande importance.
Je prends votre alerte au sérieux. Je vais m'efforcer de trouver le jeune Kenan.
Et il ne doit pas aller chez lui.
Très bien. Dois-je avertir la milice, les autorités? Que se passe-t-il, capitaine?
Ton père est mort. Je vais m'en occuper. Un assassin a oxy son père. Et j'ai bien peur pour le petit. Alors vous comprenez l'urgence de la situation?
Oui, certes. Tu vois qu'il s'affaire à ranger ses rouleaux. Je vais participer aux recherches.
Et je pars... Cal se... Sans plus de discourir, il sort et en sortant, on voit qu'il tourne la tête de droite à gauche en réfléchissant où est-ce que le petit pourrait être...
Tu sais qu'il aime bien traîner près des quais. Mais c'est plus le jour. Le soir... C'est curieux parce qu'habituellement, Kenan... Écoute, Beren a voulu faire de lui un guerrier, mais... Kenan, répugne tout ce qui tourne autour des arts de la guerre et il y a vraiment une âme de scribe. Les études, les autres cultures l'intéressent, les langues. Et c'est tout ce que t'es pas. Alors, t'essaies de t'imaginer où serait ce garçon de 16 ans qui est si différent de toi et ce qu'était Bérine. On va faire analyser la situation.
Analyser la situation. J'ai 5.
T'as 5. Écoute, ça sera pas des plus faciles. C'est un jeu à 50%.
C'est parti. Oh! J'ai le manque de 2.
Écoute, tu peux. Moi, l'état émotionnel est là. Là, je pense qu'il y a peut-être un genre de panique ou il y a de la tristesse, un paquet de choses mélangées ensemble qui se permet de relancer ton jet.
Ben oui, effectivement. Je suis stressé, effrayé, paniqué. Là, j'ai peur pour le garçon.
Très bien.
Vous y avec ça. Il faudrait l'avoir. Allez, c'est parti. Oh, 11!
Oh, c'est une réussite critique. C'est un chiffre double. Ça fait que de 1 à 5 et des chiffres doubles, c'est parfait, c'est une critique. Donc, écoute, tu sais qu'il parlait d'un cercle d'écriture. Des jeunes, à peu près de son âge, certains plus vieux, qui se rassemblent. C'est dans un quartier un peu plus noble. C'est un de ses amis qui fait partie de la noblesse, qui a accepté Kenan, parce que c'est pas facile non plus pour Kenan d'être le fils de Bérine, qui a été déshonoré. Donc, tu sais qu'il a l'habitude d'aller à ce cercle-là. T'as eu une réussite critique. Écoute, moi, je pense que dans cerner la situation, peut-être que Cal prend conscience aussi que le rouleau qu'il a dans les mains, qui est dans la poche, pourrait l'aider aussi pour la suite des décisions à prendre. Que ce rouleau-là, c'est ton nom qui est dessus.
Donc, Cal, d'un pas rapide, sort du bâtiment. Il semble regarder d'un côté, de l'autre, en se posant la question, mais où ce garçon, ce garçon-là, qui est tout le contraire de Cal, pourrait être allé? Qu'est-ce que Cal connaît de... Mais il n'y a rien qui vient en tête. Ah oui, il y a toujours les docks, mais non, on dirait... Bérine lui avait parlé d'un cercle de lecture à propos de son filleul, un cercle d'écriture, de poésie. Mais encore une fois, Cal s'est pas informé de ces choses-là parce que c'est pas dans sa nature, les arts. Donc, il comprend pas très bien l'intérêt. Il soupire en se demandant, mais que va-t-il faire? Et un poids dans sa poche lui rappelle le fameux rouleau. Comme pour s'assurer qu'il est encore et toujours là, il prend, il manipule dans ses mains, mais il y a un doute. Parce que Cal, étant droit comme une barre, c'est le genre de personne qui ouvrirait pas ce rouleau-là s'il n'était pas sûr que c'était adressé à lui. Donc, c'était pour ça qu'il l'avait laissé un peu sur pause, en attendant d'être avec le garçon, mais là, on semble être dans un cul-de-sac. Alors qu'il manipule le rouleau, une petite inscription. Une petite inscription est inscrite sur le rebord du rouleau, juste non loin du sceau. Et c'est écrit Salik, avec une faute.
Et que signifie Salik?
C'est un mot qui veut dire ami, frère, mais ce qui est important, c'est que dans le mot, il y a une faute. Et c'est une faute qui date de très loin. En fait, c'est une blague entre Bérine et Cal. Et quand il voit ça, maintenant, il a la certitude que ce rouleau-là est à lui. Mais ça, il prend quand même quelques secondes avant d'ouvrir le rouleau parce que on dirait qu'il a peur de ce qu'il va y trouver. Et avec dépit, ben écoute, il l'ouvre. Avec peur, avec hésitation, il commence à parcourir le contenu.
Cal avait bien pressenti. C'est un mot. Et ça commence avec ton nom, Cal. Mon ami, mon frère, mon ombre et ma lumière. Je suis désolé de t'avoir fait faux bond depuis ces 4 dernières années. Tu ne méritais pas de souffrir de ma déchéance. En vérité, je suis mort depuis 4 ans, Cal. Mort sur cette plage, avec celui que je considère encore comme mon seul et unique roi. Je sais, sacrilège. Et pourtant, c'est la vérité. Sans mon bras, sans ma raison de vivre, protéger le roi, qui étais-je? Rien. Cette école de combat n'était qu'un sursis, une marche lente vers ma tombe, déjà creusée, sur cette plage de notre passé. Et Kenan, diras-tu, il a déjà 16 ans, et je l'ai perdu. De l'art de la guerre, il n'a aucun amour, et je ne suis que ça, guerre et armes. Je crois qu'il me déteste. Pire encore, je pense qu'il s'est aventuré sur un lugubre chemin. L'un de ses 4 précepteurs a un lien avec la ténèbre. Je n'ai jamais vu la magie d'un bon œil, mais celle qui ensorcelle les esprits des autres corrompt à coup sûr ceux qui s'y adonnent. À cause de ce précepteur, Kenan s'est engagé sur cette voie. Me croiras-tu si je te dis que je n'ai pas eu le courage de l'affronter sur ce point? Moi qui ai jadis terrassé 3 Dothraki de front, je me suis défilé devant mon fils. Kenan est déjà si braqué contre moi. Je ne voulais pas franchir ce dernier pas qui aurait pu conduire à la rupture de notre fragile relation père-fils. À toi, mon frère, je te demande un dernier service, mon dernier ordre de commandant. Tue ce chien de Zipha, son précepteur. Fais-le pour moi, s'il te plaît, moi qui n'en ai pas eu le courage. La dague qui me perce présentement les entrailles est celle de Zipha. Je lui ai subtilisé. Tu n'auras aucun mal à l'accuser de mon meurtre après l'avoir tué. J'ai su, par ceux qui me prêtent encore un peu de respect à la cour, que le roi avait l'intention de mandater Kenan comme scribe pour suivre le frère Solomon jusqu'aux îles de fer. Le roi Azim a vendu le frère commandant, et les Fernés veulent le voir affronter en combat judiciaire leur champion, le capitaine Euron Swan. On le dit invaincu et invincible, mais crois-moi, Cal, Solomon remportera. Bien qu'il n'ait pas touché une arme depuis 4 ans, et qu'il est présentement coupé de la ténèbre, je ne peux douter de lui. J'ai appris à le connaître. C'est un homme d'honneur, comme toi et moi. Je veux qu'il guide Kenan, lui qui s'est ouvert à la ténèbre désormais. Accompagne mon fils, Cal. Suis le frère Solomon et Kenan, une année, afin de veiller sur lui, et le tiers de ma fortune t'échouera. Les documents ont été signés au temple d'Anki. Fais-le, et tu ne seras plus jamais dans le besoin, mon frère. À moins de tout perdre au jeu, jeune filou. Adieu, mon ami. De ce monde, je ne regretterai que ton affection. Et Kenan, Beryn, ton frère et ami.
Calvo, doucement, rerouler, refaire le rouleau. On va le voir serrer le rouleau jusqu'à ce que on entende un craquement de bois. Il va juste amener la main avec le rouleau jusqu'à son front. Fermer les yeux comme pour se... comme pour prendre une pause ou s'éclaircir les idées de cette situation.
Et derrière toi, une porte qui claque. Le précepteur de Kenan, Zipha, sort.
Chapitre 2. Une louve dans la bergerie.
Comment vas-tu t'y prendre alors que c'est un combat à main nue pour battre cet homme?
Je vais probablement... foncer, en fait, sur lui pour le voir bouger, puis essayer d'analyser ses points faibles.
peut-être ce sera lui qui va attaquer en premier, étant donné l'insulte que la foule lui a procurée en scandant mon nom de la reine. Mais c'est certain que je vais y aller de façon intense, sauvage, puis je vais l'attaquer avec tout ce que j'ai, là, toute la fureur qui émane d'Ygritte.
Voyons voir ce qui va se passer. Premièrement, depuis que tu as commencé les combats dans ces arènes qui se déplacent un peu partout dans la ville, c'est le plus coriace des adversaires que l'on présente devant toi, ce Caton. Il est à égalité avec toi. Donc ce combat-là, alors que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas blessé, les jets se font à 50%. Pause. Voici un topo rapide pour les règles d'engagement pour les intrépides qui n'auraient pas visionné la vidéo sur le système crampe. D'abord, il s'agit de passes d'armes et non d'un seul coup donné par tour. Il n'y a pas de durée fixe pour les passes. Donc, si un héros annonce qu'il attaque avec son épée et qu'il réussit son jet, il peut très bien décrire plusieurs échanges de coups avec son adversaire et même y mettre quelques coups de poing et le faire passer à travers la fenêtre. Pourquoi pas? L'important, c'est que si tu as annoncé la compétence arme blanche, exemple, la majeure partie des dommages narrés dans la fiction doivent se faire avec celle-ci, avec ton épée. Caractéristique plus compétence vous donne un niveau d'action, le ENA, compris entre 2 et 10 pour de simples humains. En tant que MJ, je compare le niveau d'action du héros à celui de l'adversité. Que ce soit un sbire armé d'un couteau, d'un marchand qui voudrait les arnaquer ou d'une porte à défoncer. Si leur niveau est à égalité ou plus ou moins 1, le jet du héros se fait à 50%. Jamais de jet pour le MJ, tout passe par le joueur. À chaque différentiel de 2 entre le héros et l'adversité, on ajoute ou soustrait 10% aux 50% de base du héros. Exemple, le héros a 9 en art martial et son ennemi devant lui a 7. Le héros aura donc un plus 10 sur son 50 pour faire un total de 60. Il est avantagé. Deux façons d'augmenter ce pourcentage pour le héros. D'abord, les états émotionnels. On peut prendre un état émotionnel avant un jet pour gagner 10% ou après un mauvais jet pour le relancer. Mais dans les deux cas, on veut voir le changement s'opérer ou voir le pourquoi. Pourquoi le stress? Pourquoi la rage, la peur, le désarroi, la culpabilité? On l'amène dans la fiction et ce mécanisme ajoute au roleplay des joueurs. On peut avoir recours à 2 reprises aux états émotionnels, mais à la 3e fois, les émotions ne nous aident plus. Ils nous envahissent, ils nous nuisent et c'est moins 10% pour le héros. Alors, attention. La 2e façon, c'est le côté tactique. Si dans l'annonce des intentions du héros, on décèle un avantage pour lui ou s'il surprend l'adversaire d'une quelconque façon, alors on peut gagner 10%, voire plus. Bon. Pas très souvent, plus, là. Je suis un peu radin, là, comme MJ. Un rappel. Sur une réussite partielle, on peut la transformer en réussite totale. S'il paie un prix, s'ils font un sacrifice. Maintenant, retournons à Ygritte, qui affronte un adversaire d'égale force à elle, l'imposant Caton. Donc, des jets de base à 50%. Ouf!
Ygritte peut également faire appel à ses pouvoirs.
Ouais, mais...
Pour ses...
Effectivement. Les griffes, on va se le dire tout de suite, Ygritte, si tu sors tes griffes, ça va te discréditer au niveau du combat. C'est un combat à main nue. Mais tu as un pouvoir qui augmente ta rapidité. Et ça, ça peut très, très bien passer. Et ce pouvoir-là te donne 10% à ton jet. Donc, tu passerais de 50% à 60% pour cette première passe d'armes contre ce colosse.
J'ai utilisé ma rapidité pour le plus rapidement possible pouvoir frapper puis voir où est-ce que ça fait mal.
Et si tu y vas avec ta rapidité en partant, je vais te rajouter un 10%. Parce que là, c'est de l'inattendu. Tu mets les deux pieds dans l'arène. Et alors, tu te précipites sur lui. Fais-moi ton jet à 70 et ne te rate pas. L'homme frappe très fort lui aussi.
Ah. Oh my God. J'ai eu un.
T'es sérieuse?
Non.
Non, hein?
J'ai tiré un 1 avec 2 zéros puis suivant.
C'est un 100?
Ouais.
Ouais, c'est un fiasco. Est-ce que
cool,
tu...
hein?
Et oui, c'est très très cool de commencer un combat de cette façon-là. Alors Ygritte, est-ce que tu conserves ce fiasco, hein, où la fiction va te frapper foutrement fort?
Non.
Tu vas prendre un état émotionnel, hein?
Il n'est pas question que je garde ça, si je vais mourir, puis ça va être fini là, je m'en verrai plus.
Très bien. Narrativement, l'action, OK, c'est que tu vas, avec ta vitesse, tu vas sauter sur lui, OK, et tu vas voir qu'il a été surpris, mais il est tellement raide que tu t'es agrippé à son bras et il te projette. Tu restes sur tes deux pieds, mais ton dos vient frapper à la palissade. Et refais-moi ton jet. Et là, c'est quoi? Quel état émotionnel tu prends alors que tu constates que cet homme est beaucoup plus vif que tu le croyais?
Je reste dans la rage, la colère.
Je suis
un peu insulté.
Alors, on relance ce jet.
Ygritte, une femme légendaire dans l'Antiquité de Babel pour avoir ses règles constamment.
En SPM, 365 jours par année.
Aïe, aïe. Écoute, c'est une réussite partielle. Mais attention, tu peux payer, faire un sacrifice pour rentrer avec les pleins dommages. Que fais-tu?
Quel genre de sacrifice, en fait, ça pourrait être?
On peut demander conseil à nos amis.
Est-ce que c'est je perds pied, je t'étourdis,
tu pourrais,
je suis au sol...
Tu pourrais perdre la vie, par exemple, c'est un sacrifice. Ouais.
avec des amis comme ça et leurs conseils.
Bon courage.
Peut-être que tu arrives à placer un coup, mais que lui, par contre, ses deux immenses mains viennent s'enrouler autour de ton cou, puis il te lève littéralement contre la palissade, puis il te tient là. Fait que dans le fond, tu serais comme prise là dans l'étau.
Est-ce que tu acceptes ce sacrifice?
Bah ouais, ça va faire un bon show.
Très bien. Est-ce que tu veux nous décrire comment ça se passe? Que tu réussis à le frapper, tu y fais quand même sacrément mal. Est-ce que tu veux nous décrire ça?
J'imagine très bien Ygritte bouger rapidement, puis l'assainir de coups de part et d'autre, puis glisser entre ses jambes pour aller de l'autre côté, tout ça. Et terminer avec le coup qui lui fait le plus mal, qui fait qu'il tombe à genoux et dans un élan de colère, il me prend de ses deux mains puis me m'accote à la palissade, me lève dans les airs. Puis Ygritte se retient en tenant ses mains à lui. Là.
Et là, on voit ton visage devenir plus rouge, sous l'effet de la colère, mais aussi de la strangulation que ce colosse exerce contre ta gorge. Que fais-tu alors que tu es coincé? Présentement, tu vas avoir un moins 10 sur tes actions. Tu étais à égalité contre lui, à 50%, ce qui fait que ton prochain jet serait à 40. Ta vitesse ne dure qu'une seule passe d'arme. Donc, tu as utilisé ta vitesse, tu as encore les moyens de l'utiliser encore une fois. Là, pour l'instant, c'est 40%. C'est un bon sacrifice que tu as fait.
Je vais tenter, en fait, de peut-être m'accrocher à lui avec mes jambes pour éviter de pendouiller dans les airs, d'utiliser la force de mes jambes pour le repousser ou pour me dépendre de la situation. Donc.
Très bien. Est-ce que tu acceptes ton jet à 40% ou tu veux faire ton pouvoir vitesse pour le monter à 50?
Est-ce que je peux l'utiliser je peux pas l'utiliser à volonté, là, j'ai des points.
Non, effectivement, je crois que ça va être pas mal la dernière fois que tu vas utiliser vitesse.
Il te coûte 2 points de pouvoir, puis t'en as 6.
Oh, tu pourrais l'utiliser 3 fois.
Ouais.
OK. Ça, c'est par 5 ou c'est pas...
Ben, ouais,
c'est
ça s'occupère alors.
Tu récupères tes points de pouvoir.
C'est ça.
OK. Je vais l'utiliser, puisque de toute évidence, c'est pas la soirée pour faire des bons jets.
Oui, effectivement, les jets sont très très hauts jusqu'à date.
Mais en fait, non. Nous, on a compris que les... c'était ça qu'il fallait faire, des jets le plus haut possible.
Ah, oh, ben là, fallait que je vous explique au début.
Ah oui, mais aussi, on joue à des jeux, on connaît même pas les règles, en fait.
Ah.
On voit pas au fur et à mesure, c'est toujours comme ça, avec ce maître du jeu.
Et que vous avez le tour de me faire mal paraître. Allez, 50% Ygritte, fais taire ce jeune homme prétentieux dans la foule.
19!
C'est une réussite et tu peux mettre ton homme KO.
Alors, Ygritte, comme je disais, est accroché, tenant les mains qui sont autour de son cou, enfonce ses ongles à l'intérieur pour avoir une meilleure grip. Et c'est comme si, en fait, elle marchait sur le corps de son adversaire avec ses pieds, les remonte, puis la saignée de coups de pied, montant de plus en plus haut, elle donne un coup de pied à son visage qui le fait tomber au sol, puis c'est à ce moment-là qu'elle commence à le varger comme une espèce de folle furieuse.
Tu as pris un état émotionnel qui est la colère. Tu as pris le dessus sur ton adversaire. Tu es maintenant penché sur lui et tu le frappes à coups de poing au visage. Est-ce que tu vas t'arrêter, Ygritte?
Non, c'est pas mon genre.
À moins que quelqu'un t'arrête, tu le tues?
Ouais. Surtout qu'il m'a pris au cou, que t'sais, pendant un instant, les gens ont pu douter que ça y est, c'était la fin du démon blond.
Et là, ouais. Moi, j'imagine bien la foule qui a soif de sang, en fait, dans ce genre d'arène, un peu, là.
Ouais, c'est pas le genre de place.
Ah,
c'est pas le genre de place où est-ce qu'on a pitié, là.
C'est un brouhaha qu'on entend. Et Kenan, comment tu vois ça? Comment tu réagis face à ce spectacle?
Mais, ben, moi, je suis émerveillé par ça, quoi. Je découvre comme une femme d'une autre culture. Donc, j'adore voir des nouveautés comme ça. Et puis, je suis avec le reste de la foule en train de crier comme eux, de scander son nom. Je pense qu'on est tous en train d'attendre qu'elle le massacre. Hein.
On voit Kenan au ralenti qui se tourne vers la reine puis qui découvre Ygritte pendant qu'elle est en train de tuer l'homme à coups de poing. Et là, au ralenti, ses yeux amoureux la fixent. Là, on entend la musique. Oh, Dreamweaver!
Il y a du sang partout, puis elle a une face de folle, genre il y a du sang qui explose, oui.
C'est elle. C'est
lui avec sa petite face, genre.
Hey, premier contact des yeux, l'amour déjà. Pas sérieux.
Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il y a un peu notre histoire à nous, en fait, qu'on est en train de faire sérieusement. Et puis, il y a l'histoire d'Angie.
Angie fait
ça. Il a le droit de faire sa propre histoire parallèle, tu vois. Il n'y a pas de souci.
Écoute.
Non, mais je pense que c'est quand même ça. Je me vois bien enlacer Mahmoud avec moi et puis le pousser à.
Je savais qu'il préférait les gars.
Un peu comme.
Protège-moi, c'est une folle.
Écoute, je suis quand même psychologiquement, c'est peut-être plus la foule qui t'embarque, c'est cette fièvre, parce que on sait, toi, prendre les armes, te battre, t'es très nonchalant quand vient tes cours martiales. Donc, c'est pas nécessairement la vue du sang là, qui c'est peut-être. Toute la mise en scène, le spectacle, tes yeux qui se posent, tu comprends, toi, à la lecture de tes livres, tes recherches sur les cultures, les autres peuples, tu comprends que c'est une guanaque et que, sans doute, que c'est la première guanaque qui met les pieds dans votre cité. Et là, tes yeux se posent sur une autre culture, une autre façon de faire et une femme comme t'en as jamais vu. Les femmes chez les vôtres, chez les maisonins, c'est vraiment un rôle traditionnel. Le thé, la cuisine, jamais on aurait l'idée de mettre une arme ou apprendre une femme à se battre chez les maisonins. Et là, sans doute que tu es entraîné dans cette vague qui transporte tous ces gens.
Non, c'est ça, c'est vraiment l'attrait de voir ça quoi, pour la première fois, et puis en même temps toute la course-poursuite un peu qui nous a mis comme de l'adrénaline qui fait qu'on est à fond dans l'action et on suit la foule.
Et Ygritte, de ton côté, le dernier coup va se donner quand?
Quand elle va être à bout de souffle, puis qu'elle va voir que la foule en a eu... est satisfaite, là.
Très bien. Effectivement, à force de taper comme dans un sac de sable, ton souffle est taché. Et tu te relèves lentement, alors que tes bras sont ensanglantés jusqu'à tes coudes. Qu'est-ce que tu fais habituellement à la fin d'un combat, Ygritte?
Je m'en vais me battre dans la rue!
J'imagine qu'elle a des coutumes un peu spéciales. Elle doit scalper son adversaire ou elle doit lui arracher un doigt pour le conserver en trophée.
Ouais, je vais faire des colliers.
Elle envoie des bisous à la foule.
Non, en fait, c'est plus... c'est pas une femme très bavarde et puis très sauvage. Elle a l'habitude de crier, de grogner. Je la verrais bien crier en fait au loup ou
hurler.
avec les bras d'un.
Avertis-nous avant d'hurler. Ah. Oui, effectivement, on peut te voir hurler à la lune comme une louve qui en partie tu es. Hein, tu as grandi, tu as été sauvé par une meute de loups qui est devenue ta meute. Et depuis ce temps, mais tu as cette capacité de communiquer avec eux et t'es resté avec certains dons du loup. Et tu hurles et tu enterres la foule qui commence à se calmer. Et peut-être que tu te rappelles pourquoi tu es venu ici. Trouver ce Solomon. Mais tu te heurtes à la barrière de la langue. Tu comprends pas un mot de la langue mésoène. Tu as réussi à te faire comprendre un peu en dessinant dans le sable, en faisant des mimes. Mais tout ce qu'elle t'a trouvé comme indice pour dénicher ce fameux moine qui a disparu sur ses terres il y a 4 ans, c'est un nom. Caraman. Et sans doute que tu sens peut-être le devoir te rappeler. Ça, c'est pour gagner ta pitance dans cette cité. Mais tu sais que t'es venu ici pour une chose. Et quand tu as un objectif en tête, Ygritte, tu n'en démords pas.
Après avoir hurlé, je sors tout simplement de l'arène pour aller...
toucher d'abord tes gains, oui.
Oui, ben je vais chercher... chercher mes gains, puis je retourne d'où je suis arrivé.
Effectivement, tu vas croiser à la sortie de l'arène Jadir, qui va te tendre une bourse et va te sourire. Il va te baragouiner quelques phrases, mais dont tu ne saisis strictement rien. Et on te voit disparaître dans la brasure d'une porte. Kenan, que fais-tu? Est-ce que tu te remets de tes émotions?
Ah, je suis toujours dans les émotions, mais je suis complètement happé par ce que je viens de voir. Et je pense que là, je me retourne vers Mahmoud et je lui dis « Vas-y, viens, faut qu'on la suive. Faut qu'on rencontre cette femme. »
Et
puis je commence à te presser vers la sortie pour essayer de voir si on peut arriver à la rattraper, par où elle est passée.
Est-ce que le fait que tu maîtrises un peu la base de la langue guanac, c'est une de tes motivations à rattraper la jeune femme?
Ouais, c'est ça. J'ai jamais essayé de parler la langue guanac. Après, évidemment, qu'elle a parlé en loup, j'ai compris le loup, puisque ça fait partie des langues que je comprends également. De la vie, va te faire foutre.
N'importe quoi. Quoi. Non,
tu parles paillasson. Elle a rajouté, puisqu'elle a fait. Mais ça, je l'ai compris. Mais ça n'avait pas vraiment un grand intérêt, je t'avoue. C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit, d'ailleurs, pour les téléspectateurs. Mais non, il y a un peu ce côté où j'ai envie de...
Ouais,
j'ai envie de rencontrer cette personne pour lui parler et mieux connaître...
Tu connais le guanac en théorie, donc de mettre la pratique à cette théorie, c'est sûr que t'es motivé par la curiosité, toi qui est un jeune homme curieux qui apprend les langues et les autres cultures.
C'est ça, ben ça reste une ville où c'est une ville de taille conséquente, mais il y a pas forcément des gros changements comme ça tous les jours. Ça reste un peu la routine, et puis là ça sort vraiment.
Alors tu t'élances à la suite de cette jeune femme et tu vas débouler dans une pièce. La pièce où on a préparé un bac d'eau chaude pour elle, pour se laver, qui est un peu comme ses appartements. Et vous déboulez peut-être un peu en tremble, sans doute que tu t'attendais pas à déboucher dans un genre de pièce comme ça. Donc tu arrives avec Marmoud et vous rentrez en fracas alors que Ygritte, sans doute t'étais déjà en train de plonger tes mains dans la bassine d'eau. Comment réagis-tu, Ygritte, à l'arrivée des deux jeunes hommes?
Au bruit, elle se retourne, puis c'est certain qu'en pensant qu'ils parlent pas non plus le guanac, elle les fixe avec une espèce de regard sévère, puis elle se retourne en disant « Et puis quoi encore? » Puis elle se nettoie.
La dernière fois que t'as vu un regard comme ça, Kenan, c'était des chiens de ruelle qui se battaient pour un morceau de viande.
Ah oui, d'accord. Aucun stress. La fille, elle reprend son petit truc. Ben, quand j'arrive, je suis un peu... on est un peu... C'est presque une scène burlesque. Là, on est en train d'arriver. On tombe sur ça. À ce moment-là... Moi, je la vois qui me regarde et puis je commence à un peu lever les mains en disant j'essaye de retrouver le peu de guanac que j'ai étudié, quoi. Pour essayer de dire quelque chose un peu dans sa langue pas trop sale, quoi. Pas... Vous inquiétez pas.
Déjà, au premier mot, Ygritte, sans doute que tu relèves la tête.
Ça fait des
semaines que t'as pas entendu. T'as traversé le Dominion, t'as traversé le détroit de Trident. Donc ça fait des mois que t'as pas entendu la sonorité de ta langue.
En fait, Ygritte, au son des mots qui viennent de chez elle, elle cesse en fait littéralement qu'est-ce qu'elle fait, puis elle se retourne avec un regard beaucoup plus doux et surpris envers Kenan, puis elle est comme « What? »
Oh, ça y est, le regard plus doux. Ça y est, c'est parti.
Ça y est, Angie se fait son scénario. Angie, il écoute totalement autre chose.
Je veux de la romance.
Il est là pour l'amour.
Écoute les feux de l'amour, pas les chroniques de Babel.
Tu veux mon Santa Barbara? Bon!
Quand je vois que ça commence à avoir son petit effet sur elle, là, je baisse les bras et je commence à mettre juste une main vers elle en disant « Pas ennemi, je suis pas votre ennemi. »
Écoute, c'est la sonorité de ta langue, mais un peu massacrée. Il y a un fort accent, là. Mais ça met un baume, ça fait du bien d'entendre la langue du pays, Ygritte.
Puis, en fait, étant donné qu'il parle ma langue, l'homme m'intrigue, je vais m'en approcher encore. Si j'ai pas vraiment eu le temps de me débarbouiller, je suis encore pleine de sang et de menstruation, si vous voulez. J'ai une humeur SPM en permanence.
C'est mon super pouvoir.
Super menstrué! Mais donc je vais m'approcher de lui, puis je vais, tu sais, un peu comme un chien sauvage, je vais commencer à le sentir,
ouais,
puis à l'inspecter, genre c'est qui lui qui parle ma langue puis qui a pas du tout l'air d'un guanac.
Quand je la vois se tourner autour de moi en train de me sentir, ça me paraît un peu bizarre peut-être, mais je vais pas forcément avoir un regard vraiment un peu weird. Juste, je vais continuer à apaiser. Waouh, c'est tellement impressionnant de... C'est la première fois que je rencontre une Quanac. Je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que vous me comprenez?
Ygritte va s'arrêter devant Kenan après l'avoir senti, touché un peu, voir comme ses vêtements puis tout ça. Puis elle va la regarder en mettant sa tête sur le côté puis se disant, malgré votre accent pitoyable, oui. Mais pourquoi, pouvez-vous parler le Quanac?
Ah, vous me flattez. J'ai appris, j'adore tout ce qui est langue ancienne et j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance et ça fait tellement longtemps. J'ai vu plein de choses sur votre peuple, mais c'était que dans des livres. C'est tellement impressionnant de vous voir là devant moi.
Effectivement, la notion de livre, ça t'échappe. Il vient de prononcer un mot qui résonne, qui fait référence à rien pour toi, Ygritte. Vous avez une tradition de transmission de l'histoire orale.
Mm-hmm. D'où le questionnement de « je comprends pas, où est-ce qu'il a pris ça? C'est quoi un livre? »
Je m'appelle Kenan. Je mets une main un peu sur le cœur pour me présenter. Vous, mademoiselle?
En fait, Ygritte essaie de prononcer son nom, c'est comme pour se le rappeler, Kenan.
Je pense que là, il y a un passage un petit peu romantique où moi je lui fais « Oui, Kenan. » Voilà, où on est en train de Kenan.
Et là, tu vois Marmoud qui s'avance lui aussi, qui t'a vu taper ta poitrine et dire Kenan, qui est là, qui veut faire partie de la trilogie. Marmoud.
Ouais. Ouais, mais là, Ygritte a fait une phase merde.
Pas merde, Marmoud. Marmoud.
Ok, finalement, Ygritte est un peu gogole.
Ben non, mais c'est pas le genre de mot qu'elle dit souvent, là, pis elle parle. Ben, pas qu'elle parle pas, t'sais, elle est pas stupide, c'est juste qu'elle est dans une place étrange avec des noms bizarres, pis genre, c'est ça, écoute, ça fait genre, je sais pas combien de temps qu'elle parle pas, pis qu'elle comprend absolument rien de ce qu'est-ce qu'on lui dit, pis elle est capable de converser avec quelqu'un dans sa langue à elle, même si c'est dit tout croche, fait qu'elle essaie de prendre le temps de bien faire les choses, même si elle a l'air un peu...
Je vais ramener un petit peu plus Marmoud un peu plus près d'elle, et puis je vais venir par l'épaule, je vais dire, oui, c'est ça, Marmoud, il s'appelle Marmoud, au cas où... Elle n'aurait pas compris.
Ouais, puis Marmoud de se taper la poitrine pour bien, tu sais, il en met un petit peu trop là, tu sais. Marmoud, c'est moi Marmoud, c'est Marmoud.
Ouais, c'est bon Marmoud, c'est bon. Je crois qu'elle a compris.
Et c'est à ce moment-là que la porte va s'ouvrir violemment et vous voyez le responsable des combats, c'est Jadir qui rentre un peu en panique. Il faut qu'elle parte d'ici. Et là, tu vois qu'il est comme désemparé un peu parce qu'il sait que Ygritte le comprend pas. Il faut qu'elle parte d'ici. Beaucoup de gens avaient parié sur Caton et c'est quasiment 50-50. Et là, il y en a qui veulent vraiment mettre la main sur elle. Là, il te regarde un peu comme en désespoir, Kenan.
Ouais, c'est ça. Je fais l'aller-retour entre lui et la fille que je vois devant qui ne s'est toujours pas présentée. je fais l'aller-retour entre les deux et je suis en train d'avoir les yeux de plus en plus ronds, en train de me dire « Ah, ok, je pense qu'elle n'a pas capté. » Et à ce moment-là, je vais reprendre ce qu'il a... Je vais me tourner vers la fille que je ne connais toujours pas son prénom, pardon. J'avais fait encore un petit problème de metagaming. Et...
Non, son prénom, c'est Démon, son nom de famille, c'est Blanc.
Ouais, ouais, c'est le Démon Blanc, ouais. Je vais me tourner vers un Démon Blanc et je vais lui répéter Démon blanc, il faut qu'on parte. Il est en train de dire que vous êtes en danger là.
Il faut faire vite. Ils vont débarquer ici d'un instant à l'autre.
Fait que Ygritte ramasse le peu d'affaires qu'elle a amené en fait de pour son voyage, puis elle suit. Elle sort, en fait. Elle sait pas trop où aller. Elle sort.
Ça doit se résumer à un baluchon là, concernant Ygritte.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Vous êtes une tribu nomade, hein, donc vous êtes habitué à trimballer peu de choses. Alors, vous sortez précipitamment. C'est Jadir qui va vous conduire dans un dédale de passage et vous ouvrir une porte qui va vous mener à une ruelle.
Amenez-la loin d'ici. Elle reviendra prochain combat dans 3 jours. Dites-lui, hein, dans 3 jours. Elle semble vous comprendre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous reviendrez avec elle.
Super. Là, je me retourne vers Ygritte et je lui dis dans sa langue. Bon, apparemment, il a dit un truc, mais pas très important.
C'est vraiment fiable. Vous dirigez-vous à un endroit en particulier, Kenan? Là, c'est toi qui a un peu le lead, là. La pauvre Ygritte, elle connaît pas du tout le coin, là.
Et pourquoi pas ne lui faire visiter les prisons, hein?
ça sent bien, Solomon. Okay.
Pendant la... Ben, pas la course-poursuite, là, mais pendant qu'il fuit les lieux, Ygritte va finir par dire « Je m'appelle Ygritte, puisqu'on a été coupé tout à l'heure. Kenan.
Enchanté, Ygritte.
Ygritte.
Ah, pardon, c'est pas Ygritte. Ok, enchanté Ygritte.
Rappelle-toi ce qu'il a fait mon gars dans l'arène, là.
Enchanté Ygritte, est-ce que vous connaissez quelqu'un ici? Vous savez où vous cachez?
Non.
Ok.
Personne parle ma langue, donc je comprends personne.
On pourrait aller chez moi, mais dans cette tenue là, je sais pas si ça va être très discret. Mahmoud, pas suite à tenue là.
Mahmoud se fait pas prier. Il est content de participer. Lui qui comprend rien, fait que il est content.
Hey, on se déshabille, cool man. T'as réussi à convaincre.
Non, il enlève sa cape puis il avance tranquillement parce que lui, c'est gravé à vie dans sa mémoire le combat d'Ygritte. Donc il avance vraiment tranquillement avec la cape pour t'attendre, Ygritte.
Je vais la prendre en le dévisageant, mais en faisant genre ok, toi t'es bizarre. Puis,
ouais, sans doute que tu comprends pas parce qu'il fait très très chaud. Fait que mettre une cape pour toi.
Elle devait être habillée comme un top, des bobettes, puis l'affaire est tigédou, là.
Je la regarde avec la cape, avec peut-être que je vais m'avancer vers elle et lui fermer peut-être un peu correctement, parce qu'elle l'a mis un peu sans dessus-dessous, cette cape. Je vais lui fermer correctement pour surtout pas qu'on voit toutes les taches de sang, le vêtement sanglant.
J'ai pas eu le temps de me laver.
Essayer de lui mettre les rebords de la cape à droite et à gauche un peu plus près des joues, là, parce qu'il lui reste encore quelques taches de sang. Puis dès qu'elle va me paraître à peu près correcte à présenter, on va se diriger vers ma casse, hein, mais en essayant de prendre la petite porte, hein, pour éviter de trop attirer l'attention. Hein.
Très bien. Et écoute, ça va peut-être prendre une vingtaine de minutes, alors que tu arrives à votre villa. Première chose que tu vas trouver curieux, Kenan, aucun serviteur pour t'accueillir. Qu'importe l'heure que tu arrives, surtout à cette heure-ci, Hein? On était en début de soirée. Mais habituellement, je te dirais, jusqu'à minuit, il y a toujours une servante ou un serviteur qui est là pour vous accueillir. Et là, ben, il n'est pas 10 heures le soir, 22 heures, que personne.
Mais surtout à cette heure-ci, en général, il y a toujours... Dès que... Après, là, je suis passé par derrière, mais en général, je crie ou je fais un bruit un peu pour que tout le monde sache que le prince de la maison arrive. Et puis, j'ai toujours une chenille de femme qui vient me prendre par la main et puis me ramener dans la maison. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment... c'est un petit peu choquant, mais je m'en rends pas forcément compte parce que cette fois-ci, c'est la première fois que j'ai envie de passer inaperçu pour l'instant et lui donner une autre apparence à Ygritte avant que...
J'ai l'impression que la destination, ça va être la cour intérieure, la direction du bain qui est tout près des jardins. Pour te rendre jusqu'à la cour intérieure, tu dois franchir ce qui est un peu comme le salon d'invité. Et... il y a une odeur inhabituelle. Si Kenan ne la connaît que trop peu, cette odeur, toi, Ygritte, par contre, tu la connais que trop. Puis, Kenan, tu fais quelques pas, et derrière une table, vous voyez le cercle rouge sur le sol, et une forme au centre de l'étang de sang. Ton père, Kenan.
Quand je l'aperçois, je suis totalement décomposé. Je vais crier pour en larmes, papa, et puis je vais aller vers lui, m'accroupir, essayer de voir si
il y a
un peu voir le dernier espoir s'il a encore envie.
Il y a tellement de sang qui l'entoure que. En te penchant près de lui, mais tu glisses dans ce sang poisseux. Tu vois qu'on l'a déjà serré. Tu vois même des traces de sang qui sont des traces de pas qui sont rentrées dans le cercle et qui ont sorti. Et ton père est comme en position fœtale sur le côté, une dague plantée dans le ventre. Et cette dague, tu la reconnais. Richement ouvragé avec des pierres. La dague de ton précepteur Zipha.
Là, je la vois et... Je dis... Non, mais c'est pas possible.